Une instruction cet après-midi sur la messe et la communion, qui sont évidemment les sources premières de notre sainteté. Si on devait résumer tout cela, on pourrait dire que si le calvaire est le lieu où tout a été mérité par notre Seigneur Jésus-Christ, la messe est le lieu où tout a été ou tout est appliqué. Les messes, le renouvellement du sacrifice du calvaire est le moment et le lieu, puisque c'est dans un temps et dans un lieu précis, où les mérites du calvaire sont appliqués. N'oublions pas que si notre Seigneur a mérité infiniment, nous devons acquérir, nous devons recevoir l'application de ses mérites. Et la perfection chrétienne que nous essayons d'atteindre avec la grâce de Dieu, c'est justement d'être unis à Dieu, tel qu'il est. C'est une union donc qui est surnaturelle et qui par définition donc dépasse nos propres forces, les forces de notre nature. Et malheureusement, nos péchés, les restes de nos péchés, les conséquences du péché originel rallongent cette distance que nous avons entre Dieu et nous, qui est déjà du fait qu'il est créateur, que nous sommes créatures. Et donc, qui va pouvoir nous ramener à ce Dieu dont nous sommes éloignés finalement? Eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, vous le savez, c'est le mystère de la rédemption, je n'y reviens pas. Mais nous allons pouvoir retrouver véritablement cette union à Dieu dans la communion. Et ça devrait être pour nous, qui sommes pratiquants, qui recevons notre Seigneur dans l'Eucharistie fréquemment, un motif de méditation profonde, de se dire que nous avons la possibilité de recevoir dans notre corps, dans notre cœur bien sûr, et dans notre âme, mais aussi dans notre corps, ce Dieu qui s'est fait homme il y a 2000 ans, mais qui continue de s'incarner en nous, dans le mystère et dans le sacrement de l'Eucharistie. Dans cette deuxième grande partie de la retraite, chacune d'entre vous va reconstruire cette vie plus fermement unie à Dieu en envisageant les résolutions de vie. Eh bien, je crois qu'il faudra donner une part importante à la messe et à la communion. Parce que c'est évidemment, puisqu'on cherche à être uni à Jésus, ce serait absurde de négliger le moyen par excellence d'être uni à Jésus qu'est l'Eucharistie. C'est dans la mort de Jésus-Christ que nous avons été sauvés. Et c'est dans le renouvellement de ce sacrifice que nous recevons ses fruits, ses mérites. Alors c'est pourquoi il faut méditer sans cesse sur la messe et sur le sacrement de l'Eucharistie. Et nous allons nous servir tout simplement de l'encyclique du pape Pie XII qui s'appelle « Mediator Dei et Hominum » qui date du 20 novembre 1947. Donc nous pourrons fêter ses 60 ans à la fin de l'année. Très belle encyclique sur la liturgie en général et sur la messe en particulier de Pie XII. Et je vais suivre tout simplement le plan, en le réduisant considérablement, c'est une grande encyclique. Premier aspect qu'il aborde, c'est la nature du sacrifice eucharistique. Deuxième aspect, la participation des fidèles, auquel se joindra en conclusion la communion eucharistique. Encore une fois, je souhaiterais que pour vous, pour le bien de votre âme, vous ayez à cœur de mieux découvrir ce qu'est la messe. Et si vous ne l'aviez jamais fait, de prendre un ouvrage qui lui soit consacré. Pas forcément durant la retraite, bien sûr, vous n'auriez pas le temps, mais après. Alors, je vais faire une publicité qui n'est pas intéressée, mais qui intéressera M. le directeur l'abbé Troadec. C'est l'ouvrage qu'il a publié, que vous avez dans le couloir. Si vous ne l'avez pas, je vous le conseille vivement parce qu'il est extraordinairement profond et précis. C'est l'ouvrage de Mgr Lefebvre, un ouvrage posthume, puisque c'est un ouvrage composé de citations de Mgr Lefebvre qu'il a soit d'écrits, soit de conférences, soit de sermons. Et il a été réalisé ici même, dans ce séminaire, avec des séminaristes qui ont écouté tout ce qu'a dit Mgr Lefebvre, qui ont lu tout ce qu'il a fait, et l'abbé Troadec a agencé dans un plan remarquable, à la fois sur la spiritualité et la théologie de la messe, et puis dans une deuxième grande partie sur la nouvelle messe. Et je n'ai personnellement jamais rien lu de plus complet sur la nouvelle messe, en tout cas, que cet ouvrage. Cet ouvrage s'appelle donc « La messe de toujours ». Vous l'avez dans le couloir. Ça peut être un exemple de livre. Il y en a d'autres qui existent, mais qui n'ont pas cet avantage de parler aussi de la nouvelle messe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir et comprendre théologiquement, c'est-à-dire au niveau de la doctrine, les difficultés que nous rencontrons avec la question de la nouvelle messe. Alors, reprenons Pie XII et son encyclique « Mediator Dei ». Je dirais même avant de reprendre Pie XII aussi que l'actualité nous aide à nous intéresser à la messe. Le motu proprio de Benoît XVI, qui est paru le 7 juillet, on ne peut pas comprendre les questions que cela soulève si on n'est pas formé sur la messe. Si l'on pense que les deux messes sont identiques, mais sous des formes différentes, on n'a pas compris les problèmes qu'apporte la nouvelle messe. Donc il faut se former. Il faut se former d'autant plus qu'on vous posera des questions. On vous demandera votre avis sur motu proprio. Si vous ne l'avez pas lu, n'en donnez pas. Toujours très mauvais de donner un avis sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, on peut vous demander votre avis sur la messe. Et là, vous connaissez. Mais peut-être pas assez. D'où l'importance, encore plus actuelle, de se former sur la vraie messe. Et de se former aussi sur ce qu'il en est de cette nouvelle messe, pourquoi elle est mauvaise, pourquoi elle ne peut pas être mise à égalité avec la messe catholique. Pie XII, Mediator Dei, nature du sacrifice eucharistique. Je vais lire quelques petits passages qui sont tellement bien dits que ce n'est pas la peine de chercher des formules mieux. Le point culminant et comme le centre de la religion chrétienne, c'est le mystère de la très sainte Eucharistie que le Christ souverain prêtre a institué et qu'il veut voir perpétuellement renouvelé dans l'Église par ses ministres. Nous avons dans la messe le cœur de notre religion, le centre vital, si l'on pouvait dire ainsi. Le cœur dans un corps humain, c'est, on dit, avec le cerveau, mais enfin le cœur, c'est le point qui... c'est l'organe vital, par définition. Eh bien, la messe est à la vie de l'Église ce que notre cœur est au corps. Et notre Seigneur Jésus-Christ, en instituant l'Eucharistie, a voulu donc transmettre cette vie et ses mérites qui étaient les siens. Et vous le savez, la messe est le renouvellement du sacrifice de la croix. Le saint sacrifice de l'autel n'est donc pas une simple et pure commémoration des souffrances et de la mort de Jésus-Christ, mais un vrai sacrifice, au sens propre. Alors cela est toujours surprenant, parce qu'on a du mal à se dire qu'à la fois notre Seigneur n'a souffert qu'une seule fois, le Vendredi Saint, et qu'en même temps, on renouvelle un vrai sacrifice à l'autel. C'est le prêtre qui le fait. Alors comment résoudre cette apparente contradiction? Soit comme Luther l'a fait, en disant, il n'y a pas de nouveau sacrifice, c'est un simple souvenir, c'est une simple commémoration. Donc on fait des gestes, le prêtre prend du pain, calice, tous les éléments sont là, et on se souvient de ce qu'a fait Jésus. On redit éventuellement les paroles qu'il a prononcées. Mais c'est toujours du pain, c'est toujours du vin, et voilà. Ça, c'est la solution protestante qui est évidemment condamnée et qui n'est pas du tout... Notre Seigneur n'a manifestement pas du tout voulu dire cela. La preuve, c'est qu'il a voulu donner sa chair et son sang comme une vraie nourriture, un vrai breuvage. Donc, les paroles étaient tellement claires auprès des disciples que beaucoup sont partis. Ça, c'est un épisode de l'Évangile qui détruit, j'allais dire par avance, cette conception protestante de l'Eucharistie. Si c'était un symbole, ce pain et ce vin qu'il donnait en nourriture, pourquoi ses disciples, beaucoup de disciples, seraient partis? Vous avez ça dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6. C'est un élément qui peut nous faire réfléchir. C'est au contraire parce qu'ils avaient compris que notre Seigneur allait leur donner son corps et son sang, véritablement, qu'ils ont été effrayés. Parce qu'il y a une chose qu'ils n'avaient pas comprise, c'est que ce serait sous une forme sacramentelle. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un sacrifice sacramentel, c'est-à-dire un sacrement, c'est un signe sensible. Un signe sensible qui a ceci de particulier, qu'il réalise ce qu'il signifie. Il y a des signes qui ne réalisent pas ce qu'ils signifient. Un panneau de la route ne réalise pas ce qu'il signifie. Il vous annonce quelque chose qui devrait se passer peut-être, mais... ou qui doit se passer, c'est un stop, mais qui ne réalise pas. Ce n'est pas parce que vous voyez un panneau stop que votre voiture s'arrête. Donc, ce n'est pas un signe qui réalise ce qu'il signifie. Les sacrements sont des signes particuliers, puisqu'ils réalisent ce qu'ils signifient. Alors, ils signifient quelque chose, c'est-à-dire qu'ils renvoient à une réalité invisible. Par définition, un signe, ça dit quelque chose, ça renvoie à une autre réalité. Mais en plus, il la réalise, cette réalité à laquelle il renvoie. Donc le sacrement est un signe, alors il a été institué par Jésus-Christ. Et c'est par la puissance divine que cette réalisation de ce qui est signifié est rendue possible, bien sûr. Lorsque le prêtre baptise, l'eau coule sur le front de l'enfant et lave son âme du péché originel, lorsque les paroles sont dites « Je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit ». Mais c'est bien sûr parce que Jésus a voulu que de l'eau versée sur un corps, une tête, lave du péché et donne la grâce. Donc il y a réalisation du signe, et quel est ce signe? C'est le signe que de l'eau, ça purifie, ça nettoie, ça lave. Donc il y a un signe sensible, il y a une matière sensible et elle signifie quelque chose. Elle est employée dans un sens précis de laver. Mais laver quoi? Le front, il est propre. Donc ce n'est pas ça. C'est bien sûr laver la faute originelle, le péché originel, ou les péchés, si c'est un adulte, tous ces péchés. Donc le signe sensible réalise ce qu'il signifie. Et là, qu'avons-nous à la messe? Nous avons un signe qui est deux espèces distinctes. Le pain qui n'est plus du pain, mais le corps de notre Seigneur, et le vin qui n'est plus du vin, mais le sang de notre Seigneur. Et cette distinction des signes qui sont véritablement le corps et le sang de notre Seigneur, mais séparés, distincts, eh bien, signifie le sacrifice. Puisque lorsqu'il y a un corps distinct de son sang, c'est évidemment que l'on a affaire à une mort violente, un sacrifice. Il y a donc à l'autel, à partir de la consécration, la réalisation d'un sacrifice, mais sacramentel, c'est-à-dire au niveau des signes. Mais attention, qu'on ne croit pas que c'est une sorte de sacrifice, c'est un véritable sacrifice. Mais au lieu d'avoir un corps visible en tant que chair humaine et un sang visible en tant que sang humain, il est sous l'apparence des espèces, il est dans les espèces, ce sont les espèces qui sont le vrai corps, le vrai sang, mais qui ont les accidents, comme on dit, qui sont encore ceux du pain ou du vin, alors que la substance est véritablement le corps du Christ et le sang du Christ. Alors, bien sûr, si nous comprenons, si nous méditons cette vérité, nous comprenons que nous sommes mis à la messe comme au calvaire. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas le corps crucifié de notre Seigneur et son sang couler que nous ne sommes pas au calvaire. Nous sommes comme au calvaire. Et donc nous pouvons en avoir tous les fruits. L'efficacité de l'obtention des grâces de la messe dépend donc de notre attitude, de nos dispositions. Et dans ce sacrifice sacramentel, le prêtre est le même qu'au calvaire. Vous savez qu'au calvaire, on dit que notre Seigneur est à la fois le prêtre et la victime. C'est lui qui s'est offert à son Père. Bien sûr qu'il y a eu les instruments qui l'ont conduit sur cette croix. Les Juifs, les Romains, nous tous qui avons été la cause de ce sacrifice rédempteur par nos péchés. Mais le vrai prêtre, celui qui s'offre en victime volontaire, c'est Jésus-Christ et lui seul. Ce ne sont pas les bourreaux qui attachent notre Seigneur qui sont des prêtres offrant à Dieu le Père. Ils ont toute autre idée dans la tête. Donc le prêtre, c'est Jésus-Christ lui-même et qui utilise une personne, un être humain, un homme, consacré pour cela, son ministre, dont il va utiliser la parole au moment de la consécration spécialement. La victime est identique, c'est le divin rédempteur, selon sa nature humaine, et dans la vérité de son corps et de son sang. C'est seule la manière dont est offert le sacrifice qui est différente. Puisqu'il n'y a plus la possibilité de verser le sang de Jésus-Christ, mais il y a ce moyen extraordinaire dans la transsubstantiation, c'est-à-dire dans le moment où le pain est transformé en le corps de notre Seigneur et le vin en le sang, eh bien, c'est ce miracle que Dieu a voulu qu'il soit répété à chaque fois que le prêtre prononce les paroles de la consécration, qui opère cette violence invisible, si l'on peut dire, du vrai sacrifice sacramentel de notre Seigneur. Le prêtre est identique, la victime est identique, les fins, les buts sont identiques. Alors, quelles sont les fins du sacrifice de notre Seigneur? Les théologiens en ont toujours retenu quatre. Et puis 12 les rappelle. Premier but, la glorification du Père céleste. Souvenons-nous toujours que dans la rédemption, c'est d'abord le Père qui est recherché, la gloire de son Père qui est recherchée. Ce n'est pas d'abord sauver les hommes, c'est rendre justice à son Père qui a été offensé. C'est donc une fin de gloire. Et ça, c'est la préoccupation première que Jésus a dès son incarnation jusqu'à sa mort. Le second but, c'est de rendre grâce. Action de grâce, ça se dit Eucharistie en grec. Eh bien, nous avons évidemment Dieu, Jésus-Christ, pardon, qui rend grâce à son Père dans le sacrifice qu'il accomplit. Il rend grâce dans son humanité, qui s'offre en sacrifice comme étant le cadeau de grâce, de gratitude, pardon, le plus grand qu'il puisse faire à son Père, donner sa vie. Il a reçu une humanité, je parle de sa nature humaine, là, hein. Il a reçu une humanité, eh bien il l'offre en holocauste, en sacrifice complet à son Père, comme étant la réponse maximale qu'il puisse donner pour remercier son Père. La troisième fin est bien sûr un but d'expiation, de propitiation, c'est-à-dire de redonner le lien, de réconcilier dans le sacrifice pour les péchés qui ont été commis. C'est un paiement. C'est une rédemption. Tous ces mots sont dans leur, ont une étymologie qui parle de rachat. Rédimere, en latin, c'est racheter. C'est acheter en échange. Il y a donc, dans le sacrifice de notre Seigneur, bien sûr, une expiation de nos fautes et un sacrifice que l'on dit propitiatoire, c'est-à-dire qui vient à la place de ceux qui devraient payer et qui ne peuvent pas payer parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Nous les hommes. Et aucun autre, je vous l'ai dit l'autre jour, aucun autre que notre Seigneur ne pouvait offrir en proportion de la faute. C'est impossible. Seul cet homme Dieu a pu le faire, c'est Jésus-Christ. Et enfin, la dernière fin, c'est le but que l'on dit impétratoire, peu importe le mot, ça veut dire un but de prière, de demande, de supplication. Dieu prie pour nous, Jésus-Christ prie pour nous. Et ces quatre fins, la gloire et la louange de Dieu, l'action de grâce, la propitiation et la prière sont les quatre fins de la prière en général, de toute prière en général. Mais le sacrifice de la messe les contient toutes. Et ainsi est la prière par excellence que Jésus-Christ adresse à son Père. Et donc la valeur de ce sacrifice, elle est maximale. Il n'y a pas sur terre de prière qui monte au ciel plus valeureuse, plus riche que le sacrifice de la messe. Ça n'existe pas. Parce que, justement, c'est une prière qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est parfaite, c'est-à-dire qui comporte tous les aspects qu'une prière peut avoir. Bien souvent, nos prières sont impétratoire, c'est-à-dire qu'on demande quelque chose. Alors ça, on sait faire. Dès qu'il nous manque quelque chose, dès qu'un événement contrariant nous arrive, alors on demande délivrance de cette difficulté, de cette peine, de cette épreuve. Alors l'impétratoire, même si le mot n'est pas forcément le plus connu, en tout cas, la réalité, on la connaît. L'action de grâce peut être quand même dans nos prières. La louange et la glorification, c'est la première fin de la prière. Est-ce qu'elle est dans nos cœurs fréquente? Se dire qu'on ne prie que pour louer Dieu. C'est fait officiellement par le bréviaire, par tous ceux qui y sont tenus. C'est une prière de louange, d'action de grâce aussi. On prie Dieu pour lui, pas pour nous. Bien sûr qu'on en demandera aussi des retours, si l'on peut dire. Mais la première chose, c'est qu'on loue Dieu, parce qu'il est Dieu et qu'il mérite louange. Et en revanche, l'expiation dans nos prières, ça aussi c'est plus dur à trouver. Et pourtant, dans la messe, vous avez les quatre formes, les quatre fins, et donc la perfection la plus grande qui soit pour une prière. Donc une valeur infinie, et bien sûr, nous sommes invités, et spécialement vous êtes invités, fidèles, à participer à ce sacrifice. Alors, c'est là aussi qu'il faut donner quelques explications, parce que justement, c'est là que sont venues des erreurs, et que l'on retrouve spécialement dans la nouvelle messe, qui n'est qu'une répétition de ce que l'on a retrouvé dans les erreurs de Luther ou de l'anglicanisme. On a fait croire aux fidèles que, du fait de leur baptême, ils étaient prêtres, d'une certaine façon. Et ce n'était pas faux, puisque l'expression se retrouve chez Saint-Pierre. Il parle du sacerdoce des fidèles. Alors tout le monde s'est trouvé prêtre et tout le monde s'est senti dans l'obligation de célébrer la messe, puisque le propre du prêtre, c'est de célébrer la messe. D'où une facilité, depuis le XVIe siècle, mais bien sûr depuis la nouvelle messe en 1969-70, de croire que les fidèles devaient finalement prendre la place quasiment du prêtre, ou en tout cas agir en même temps que lui, dans la réalisation de ce qui devenait beaucoup plus un repas ou une cérémonie commémorative qu'un véritable sacrifice sacramentel. Et c'était avoir complètement oublié que Dieu s'était choisi des hommes qui réaliseraient l'essentiel de la messe. Alors, les fidèles, Jésus n'y a pas pensé ? Bien sûr que si. La messe n'est pas faite que pour le prêtre. Elle n'est réalisée que par le prêtre. Un prêtre qui dit sa messe seul dit une messe de même valeur que s'il a 5000 personnes derrière lui. Ce n'est pas le nombre de fidèles qui fait la messe meilleure. Mais quelle est la différence quand il y a 5000 fidèles ou quand il n'y en a qu'un ? C'est qu'il y a 5000 personnes qui peuvent en profiter davantage, je dis bien davantage, parce qu'une messe célébrée dans une chapelle avec une personne ou une seule profite aussi à l'Église, ne l'oublions pas. Le prêtre, par sa messe, déploie, déverse des grâces sur toute l'Église, donc même ceux qui sont absents, bien sûr. Mais ceux qui sont présents à la messe vont pouvoir recevoir bien plus profondément ces grâces, ces mérites qui sont donnés. Et comment ? En participant à ce sacrifice. Mais, encore faut-il préciser le terme de participation. Cette participation n'est aucunement dans la réalisation du sacrifice sacramentel. C'est l'exclusivité du prêtre. Pourquoi ? Parce que le prêtre représente Jésus-Christ. Et seul Jésus-Christ est mort sur le calvaire. Donc il ne s'agit pas de confondre ceux qui sont sauvés et celui qui sauve. Mais tous ceux qui vont être sauvés, et qui ont été le Vendredi Saint, mais qui doivent acquérir le salut par les fruits de la messe, doivent effectivement faire quelque chose pour acquérir ces fruits de cette messe. Et c'est ce faire quelque chose qui est la participation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce faire quelque chose ? Que doit-on faire quand on est fidèle à la messe et que l'on veut obtenir les mérites, les fruits du sacrifice de la messe ? Eh bien, on doit participer d'une certaine façon. Comment ? La première chose qu'il faut faire, c'est s'unir à ce que fait le prêtre. Cette union, elle n'est pas une union physique. Vous n'allez pas faire les mêmes gestes, les mêmes mots, vous n'allez pas prononcer les mêmes mots, même si de temps en temps, vous participez en parole, en chant. Mais l'essentiel sera de s'unir à tout ce que fait le prêtre, d'une part, et d'autre part, à prendre les dispositions qui ont été celles que notre Seigneur a eues en s'offrant sur la croix. Donc, on voit bien que la participation des fidèles, elle est beaucoup plus spirituelle que physique. Ce qui ne veut pas dire que on se dispensera évidemment de la présence physique, en disant « bon, c'est bon, comme ça je reste chez moi et je m'unis spirituellement à la messe qui est célébrée loin de chez moi ». Il ne s'agit pas de cela, puisque véritablement, il y a aussi cette dimension de présence au sacrifice sacramentel et de participation à ce sacrifice dans la communion, qui est évidemment non pas le sommet de la messe pour vous, puisque la réalisation du sacrement de l'Eucharistie, c'est le sommet, c'est au moment où le sacrifice est offert qui est le sommet de la messe. Mais c'est un sommet pour chacun de vous. C'est-à-dire que vous passez de l'assistance à la réalisation du sacrifice à l'acquisition en vous des fruits du sacrifice. Donc il y a véritablement un sommet dans la communion, mais ne mélangeons pas tout. C'est un sommet pour celui qui le reçoit. Et donc cette participation spirituelle doit, dans la mesure du possible, suivre le déroulement du sacrifice. Et la première grande phase de ce sacrifice, c'est l'offertoire. C'est pour ça que l'Église a été toujours très stricte sur le fait que on considère qu'une fois si on arrive après l'offertoire à une messe dominicale, on n'a pas assisté à la messe. Parce que la messe commence déjà dans cette offrande de la victime qui explicite les buts du sacrifice à venir. Le sacrifice va se réaliser à la consécration, mais il est déjà signifié, il est déjà expliqué à l'offertoire. Et on voit toutes les fins, justement, du sacrifice dans les prières de l'offertoire. Alors donc, il y a déjà à l'offertoire le premier grand moment de la messe en tant que sacrifice. Toutes les parties précédentes sont importantes, mais elles sont plus dans un but d'instruction et d'édification. Les lectures, le sermon, etc. Mais à partir de l'offertoire, on a vraiment la deuxième grande partie de la messe qui est la plus importante. Et il y a donc, de votre part, un devoir de vous unir dans les gestes, les paroles qui sont prononcées par le prêtre ou en silence souvent, mais pour vous mettre dans votre cœur les dispositions qui sont nécessaires à cette union au sacrifice de notre Seigneur. Alors, l'idéal, c'est de suivre les prières, tout simplement. Mais il n'est pas interdit de rester sur une prière qui vous permette de vous unir et de vous disposer. Ne croyez pas que vous suivez mal votre messe si vous n'arrivez pas à suivre dans la même vitesse ce que dit le prêtre. Parce que vous êtes resté attaché à telle prière, à telle parole, même telle phrase, qui vous a marqué, vous vous êtes dit, ben voilà, le Saint-Esprit a pu vous éclairer, ça arrive bien sûr, de donner une lumière sur une parole de la messe. Ça peut être l'offertoire, ça peut être le texte de la secrète, ça peut être le texte de l'offertoire, le chant de l'offertoire. Ça peut être dans l'évangile ou l'épître que vous avez entendu quelques minutes avant. Si cela provoque en vous un désir de vous unir à notre Seigneur, vous êtes unis à la messe. Donc ne vous dites pas, il faut absolument que je lise l'intégralité des prières que le prêtre dit, et à ce moment-là, j'ai bien récité, je me suis bien uni à la messe. Ce n'est pas une condition. Ça peut se faire, bien entendu. Mais n'ayez pas peur de rester à méditer, encore une fois, dès lors que cette méditation est toujours reliée au sacrifice à venir ou au sacrifice qui est déjà réalisé si vous êtes après la consécration. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. C'est saint Paul qui parle. Et je continue avec Pie XII. Demande donc de tous les chrétiens, le mot de l'apôtre, ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus, demande donc de tous les chrétiens qu'ils reproduisent autant qu'il est humainement possible les sentiments dont était animé le divin Rédempteur lorsqu'il offrait le sacrifice de lui-même. C'est-à-dire qu'ils reproduisent son humble soumission d'esprit, qu'ils adorent, honorent, louent et remercient la souveraine majesté de Dieu. Et alors, et c'est là qu'on entre dans le cœur de votre participation, ils demandent encore, de même, qu'ils prennent en quelque sorte la condition de victime, qu'ils se soumettent complètement aux préceptes de l'Évangile, qu'ils s'adonnent spontanément et volontiers à la pénitence, et que chacun déteste et expie ses fautes. Alors voilà la véritable participation des fidèles à la messe. Et l'on voit que ces sentiments qui sont en accord, en phase avec ce qui se réalise véritablement sur l'autel, eh bien demande de la part des fidèles quelque chose de grand, une participation véritable, profonde, puisqu'elle engage spirituellement toute la vie du fidèle. Et on voit aussi que on est aux antipodes, finalement, de cette invitation festive, constante, qui ne recherche que la réjouissance, le sentiment de se sentir bien ensemble, la joie de commémorer un événement du Christ que nous retrouvons dans la nouvelle messe. Pour avoir voulu tout extérioriser, on a vidé la véritable participation des fidèles, qui est avant tout intérieure et qui est une union profonde aux sentiments et aux dispositions de Jésus-Christ lui-même. Il n'est pas vraiment possible, je pense, d'avoir ces dispositions lorsqu'on est constamment sollicité pour chanter, pour frapper dans les mains ou autre chose. Ça n'est pas possible. On ne peut pas être prêt à s'offrir en victime, à vouloir expier ses fautes et donc à être uni au sacrifice rédempteur. On a faussé dans la nouvelle messe le sens de la participation des fidèles. Et du coup, on leur a fait perdre le sens du sacrifice. Parce que, bien sûr, que la messe n'est pas un enterrement au sens... C'est pas quelque chose de triste dans tout son aspect, puisque nous sommes au pied de la croix qui est notre victoire et notre rédemption. Il y a donc un grand motif de joie d'être sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cela doit être bien sûr tempéré par le fait que ce sacrifice a bien eu lieu, et il a bien lieu devant nous, et il n'a pas été rose, il n'a pas été sans douleur. Et nos péchés sont bien réels. Il faut bien que nous en obtenions le pardon, l'expiation. Donc c'est à la fois une grande paix que nous recevons à la messe, mais une paix qui passe par notre identification aux dispositions, encore une fois, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les fidèles participent à la messe, oui, mais dans la mesure de leur souci de s'adapter, de se disposer à cette attitude profonde que Jésus-Christ a eue. Alors bien sûr, au moment de la communion, notre Seigneur se donne à nous. Et les fruits de cette communion seront proportionnés à ces dispositions que nous aurons prises, ou non. Souvent, on s'étonne que nos communions, comme nos confessions, mais c'est un autre problème, soient suivies de peu de fruits. Eh bien, c'est peut-être tout simplement parce que nous n'avons pas, à cette messe et à cette communion, eu les désirs nécessaires. Il n'y a pas de communion ou de messe qui soit de meilleure qualité que d'autres. Enfin, je parle de vraie messe. Ce n'est pas le prêtre qui fait que la messe était plus belle ou moins efficace, plus ou moins efficace, plus ou moins efficace qu'un autre prêtre. Alors, qu'est-ce qui fait que la communion est plus efficace ? Ben, c'est nous. Ce n'est pas que l'hostie que nous recevons, le jour où on la reçoit, soit peu propice. C'est nous-mêmes qui mettons des barrières à cette réception de Jésus-Christ. Et je crois qu'il faut vraiment revenir sur cette participation du fidèle à la messe qui détermine la réception d'un plus ou moins grand nombre de grâces au cours de la communion. Alors ça doit nous réveiller dans notre assistance à la messe. Le mot assistance, je ne l'aime pas trop parce qu'il y a toujours un côté, on peut l'employer dans un sens un petit peu passif justement. Et alors on assiste à la messe, on remplit son devoir dominical et l'affaire est réglée. Tout est fait sous l'apparence de devoir à accomplir et on ne voit pas qu'il y avait un amour à rencontrer. On ne voit pas qu'il y avait un sacrifice dans lequel nous devions nous insérer, auquel nous devions participer. Mais on a fait ce qu'on nous avait demandé de faire et on a rempli le commandement de l'Église. Notre Seigneur nous demande bien plus. Et en échange, eh bien, il nous donnera bien plus. Il nous donnera une compréhension plus profonde de ce qu'il a fait, de son don d'amour dans le sacrifice du Vendredi Saint et de la messe. Mais aussi, il nous donnera cette capacité de remplir avec plus de ferveur et de grandeur cette fin de louange et de gloire de son Père, puisque nous serons plus unis à lui, donc nous serons plus co-responsables de sa prière. Lorsqu'on est uni à quelqu'un, on partage tout ce qu'il fait. Si on est uni à Jésus-Christ, on partage tout ce qu'il fait. Et que fait Jésus-Christ ? Il honore son Père, première fin. Il rend grâce à son Père, donc nous rendons grâce à Dieu de la façon la plus grande lorsque nous communions. Il demande pardon, il expie, eh bien nous expions davantage nos fautes. Et enfin, il demande pour nous, il supplie pour nous, eh bien nous supplions davantage et nous sommes sûrs, encore plus sûrs d'être exaucés, puisque là encore, plus on est proche de celui qui peut obtenir, plus on obtient. On voit ça même au niveau des êtres humains. Si on connaît quelqu'un qui connaît celui qui peut tout, eh bien on est sûr d'obtenir ce qu'on cherche à obtenir. Eh bien, si nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons les saints et Jésus-Christ, eh bien, si on est uni à Jésus-Christ, on est encore plus sûr d'obtenir ce dont nous avons besoin. Alors je crois qu'il faut véritablement réfléchir pour vous, ça doit faire partie de vos résolutions, sur votre façon d'assister à la messe et peut-être même antérieurement votre façon de préparer votre assistance à la messe. Il est évident que comme pour une prière, si on rentre un petit peu brutalement dans notre prière, on est souvent sujet aux distractions parce qu'on est passé d'une activité domestique, de travail, de lecture, qui n'avait rien à voir directement avec une prière, et puis tac, on passe et on s'adresse à Dieu. Du coup, souvent, l'activité antérieure demeure dans notre esprit, dans nos préoccupations, dans notre imagination, et entretient ce qu'on appelle des distractions. Pour la messe, c'est la même chose. Mais la messe, on le fait plus rarement, donc on doit pouvoir la préparer plus sérieusement. Alors, si on ne peut pas faire autrement, enfin, le minimum, c'est d'arriver un peu avant la messe, ce qui nous oblige, on attend l'heure dite et on est à l'église, donc on a la possibilité de se recueillir, de se réfléchir sur ce à quoi on va participer, et cela peut suffire. Préparation d'un niveau de qualité supérieure, ce sera de préparer les textes de la messe, savoir quelle fête nous célébrons, bien sûr. Et si c'est un dimanche après la Pentecôte, comme dans lequel nous sommes actuellement, ils n'ont pas d'aspect particulier, c'est la couleur verte, il y en a plusieurs, il y en a pas mal dans l'année, bref, on a l'impression d'être une messe ordinaire, comme s'il y avait des messes ordinaires. C'est quelque chose de contradictoire, chaque messe est extraordinaire. Et elle est de la même valeur qu'une fête Dieu, qu'une fête de Pâques ou qu'une fête... Bien sûr, il y a des grâces spéciales dans chaque mystère que nous fêtons. On ne reçoit pas les mêmes grâces huitième dimanche après la Pentecôte et le jour de Pâques. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quant à la réalité du sacrifice qui va s'opérer devant nous, c'est le même. Et il ne tient qu'à nous que nous recevions peut-être plus de grâces un huitième dimanche après la Pentecôte qu'un jour de Pâques. C'est pour dire que nous devons nous y préparer en regardant la leçon que l'Église va nous donner. Alors bien sûr, il y aura un sermon. Mais le sermon va peut-être parler de l'Épître alors qu'on aurait aimé comprendre l'Évangile. Il va peut-être parler de l'Évangile alors qu'on aurait aimé comprendre l'Épître, etc. Donc on ne peut pas tout dire, bien sûr, dans un sermon, vous savez bien. Et en même temps, vous, en ayant préparé les textes de la messe, vous recevrez peut-être des lumières ou une préparation de lumière qui sera donnée dans la messe. Et pas forcément au sermon, d'ailleurs. Ce sera peut-être au moment de la consécration ou au moment de votre communion. Donc si vous faites un effort de préparation de vos messes, vous serez mieux disposé à vous offrir spirituellement, à participer au sacrifice, comme nous invite l'Église. Et du coup, vous en recevrez plus de fruits. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est cette fois à la fin de la messe, c'est l'action de grâce. Il est évident aussi que l'absence d'action de grâce ou des actions de grâce trop bâclées, trop courtes, sont aussi la cause d'un manque ou d'une diminution des fruits que nous recevons à la messe. Parce que nous sommes préoccupés par les soucis matériels, nous avons envie d'aller voir telle personne qu'on a repérée à la communion, et du coup, on écourte cet entretien avec Jésus qui pourtant ne demandait qu'à durer. Alors là aussi, il y a certainement des réformes à entreprendre dans votre vie par rapport à cette préparation à la messe et par rapport à la participation, bien sûr, active, au sens où on l'a décrit tout à l'heure, et par rapport à l'action de grâce. À ces conditions, vous verrez, d'une façon quasi miraculeuse, les effets que Dieu produit dans notre âme lorsque nous faisons ces efforts pour mieux assister à la messe. Il y a également, bien sûr, la possibilité d'aller à la messe, pour ceux qui le peuvent, en semaine. Alors il faut voir au cas par cas, ce que je vais dire n'est évidemment qu'une généralité, il est évidemment bon d'aller à la messe en plus du dimanche. Encore une fois, il faut l'adapter à chaque situation, donc il ne s'agit pas d'en faire une loi. Parce que, du coup, en renouvelant cette offrande plusieurs fois dans la semaine de notre être uni au sacrifice de Jésus-Christ, nous finissons par vivre constamment dans cette union à Jésus-Christ. Or, le but, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, de notre perfection chrétienne, c'est l'union à Dieu. Si donc nous avons la possibilité, en assistant à la messe, de nous mettre régulièrement dans ces dispositions actuelles d'union à Dieu, par la communion, mais aussi par l'esprit d'offrande, par l'esprit des quatre fins de la prière et de la messe, eh bien nous allons nous rendre compte que notre vie en dehors de la messe prendra elle aussi ses aspects d'offrande. Ce qui fait que dans notre travail, dans notre vie domestique, dans notre vie familiale, dans notre vie de prière personnelle, tout sera illuminé, irrigué par le sacrifice auquel nous aurons communié dans la mesure du possible, encore une fois. Si cela n'est possible qu'une fois par semaine, ou parfois moins, parce qu'il y a des personnes qui habitent très loin d'un lieu de messe, ils ne peuvent pas toujours se rendre sur des lieux de messe catholiques, eh bien, à ce moment-là, c'est la messe dominicale qui va faire office d'irriguer toute la semaine. Mais pour cela, il faut en avoir pris véritablement le maximum de force et de grâce. On voit encore plus l'importance d'assister profondément et avec ferveur à ce sacrifice qui va être unique dans la semaine. Donc voilà quelques pistes qui peuvent vous aider à prendre des résolutions sur la messe, pour vous former sur la messe, sur le sacrifice, sur ce qu'est la messe. Et je pense que, eh bien, il faut vraiment que vous ayez une nouvelle façon d'assister à la messe. Il faut se dire que souvent, et c'est le cas des personnes qui y vont très régulièrement, il y a une habitude, une accoutumance, on pourrait dire, qui nous fait perdre ce côté extraordinaire qu'est la messe. Je disais tout à l'heure, exprès, qu'il n'y a pas de messe ordinaire. Ben, si la messe nous semble ordinaire, c'est mauvais signe. Et on peut y mettre un terme à ce symptôme d'une accoutumance, finalement, qui banalise notre assistance à la messe. On devrait être transformé, bien sûr, après, mais on devrait comprendre que nous sommes invités au pied de la croix et que nous allons pouvoir, non seulement pour nous, mais pour l'Église tout entière, augmenter, répandre les fruits du sacrifice de notre Seigneur. La messe, c'est ce lieu et ce temps où le Christ distribue ce qu'il a mérité. Et plus il y a de messe, plus cette distribution est abondante. D'où la nécessité, et je conclue par cela, de prier pour le sacerdoce, de prier pour qu'il y ait des prêtres. Parce que moins il y a de prêtres, moins Jésus-Christ peut donner ses grâces. Ce n'est pas qu'il n'ait pas pu faire autrement, c'est qu'il a voulu faire comme cela. Alors bien sûr, Dieu donne ses grâces invisiblement à chacun, mais il a voulu que dans le sacrement de l'Eucharistie, ce soit des grâces très fortes, très importantes, d'unité, d'union à ce qui est le cœur de son amour, son sacrifice. Et donc, il y a des grâces spéciales qui ne sont données que par la messe, pour les vivants, pour les défunts. Alors, profitons-en, pour prier pour les vocations, vous êtes dans un séminaire, priez pour les prêtres, pour leur persévérance, dans leur fidélité à la doctrine, dans la fidélité au sacrifice catholique. Et vous avez votre rôle, parce que nous sommes tous dans l'unique Église catholique. Donc, ce que le prêtre fait, il le fait pour vous, il le fait pour Dieu et pour vous, mais ce que vous le faites aussi pour le prêtre et pour l'Église. Chacun dans son coin, j'allais dire, offrant, ayant puisé dans la messe, de quoi offrir sa vie, remplit le trésor de l'Église de nouveaux mérites. Et ça n'est pas rien, c'est le dogme de la communion des saints. Cette communion des saints, c'est une grande réalité qu'il faut savoir méditer aussi, mais là ce serait une autre instruction qui n'est pas prévue. Mais cette communion des saints, elle se remplit à la messe de façon toute spéciale. Et elle se prolonge après la messe dans vos vies personnelles qui ne sont pas détachées de la vie de l'Église, mais qui sont visiblement rendus individualisés, c'est-à-dire que vous n'êtes plus, on n'est plus ensemble, alors qu'on était ensemble à l'Église. Mais il y a dans cette vie individuelle un prolongement, on pourrait même dire une incarnation des fruits du sacrifice de la messe. Si je tiens dans mon travail, si je tiens dans ma vie de famille, si je tiens dans mes épreuves, dans ma santé qui est déficiente, je vis, j'incarne le prolongement du sacrifice de la messe dans ma vie personnelle. Et donc, étant uni à notre Seigneur Jésus-Christ par la grâce, et ayant puisé à la messe et à la communion ses forces, je prolonge, j'étends et j'enrichis toute l'Église de ses grâces qui se multiplient dès lors que notre Seigneur peut les répandre à travers nous.